Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle cuisine chez 7 milliards de voisins. Avant, avec la bande des Afro-Cookers, on va parler de plats de fête, de desserts dans les cuisines africaines de Dakar à Kinshasa. On connaît tous les plats traditionnels africains dans leur immense diversité. En revanche, les desserts sont moins réputés, mais surtout beaucoup moins présents sur les tables. Alors, il faut du métissage. On va parler du crumble de manioc, des crèmes brûlées au baobab, du moelleux aux cacahuètes. À l'approche des fêtes de fin d'année, nos invités vont nous raconter leurs découvertes, mais aussi leurs créations pour adoucir les fins de repas. On va en discuter avec Anto Cocagne, alias le chef Anto. Bonjour.
Bonjour Anto, Emmanuel.
Chef à domicile qu'on ne présente plus, vous êtes partout maintenant et vous venez de publier Goût d'Afrique, recettes et rencontres aux éditions Mango. C'est un super, super beau livre à offrir. Merci. Pour les fêtes de fin d'année avec sa belle couverture en tissu wax. C'est un objet qu'on a envie de voir trôner au-dessus du fourneau. Et ça cartonne, hein, je crois.
Oui, ça, on est vraiment contents parce que ça cartonne. Et ce qu'il est numéro 1 depuis sa sortie. Il est dans le top 5 des ventes de livres de cuisine à la FNAC.
Oh là là, formidable. Et il y a 2 ans, vous aviez déjà ce projet-là. Vous l'aviez proposé à des éditeurs.
Qui n'y croyaient pas du tout. Qui m'ont dit, non, l'Afrique, c'est pas vendeur. Ça va être un flop et tout ça. Et on a été très contents lorsqu'en fin d'année dernière, on a une maison d'édition qui nous a dit oui. Et là, on s'est dit, super, on va leur faire regretter à ceux qui ont dit non.
Le monde change, la cuisine bouge. Et c'est formidable aussi pour nos papilles. Également avec nous, Fatima Tawon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pâtissière franco-sénégalaise. One Pâtisserie, c'est un compte Instagram très alléchant et un service de pâtisserie à commander sur Internet pour les restaurateurs pour le moment oui. Et les professionnels. Mais ça changera peut-être.
Ça changera bientôt, oui.
On va en parler. Nafin Diaye, bonjour.
Bonjour.
Franco-sénégalaise, vous avez fondé le Corridoré. Ce sont des pâtisseries pour des particuliers et des entreprises à la sauce Afro Cake Design. C'est quoi ça?
Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un concept en fait nouveau qui. Je travaille la pâte à sucre, même si dans le cake design, il n'y a pas que la pâte à sucre. Moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je propose des gâteaux à la fois aux saveurs afro-caribéennes, mais aussi avec un design afro-caribéen, comme le wax, le bogolan, le madras.
Et on retrouve tout ça dans la pâtisserie. Si c'est possible, on ne mange pas le tissu, mais quand même. Et quant à vous, les voisines et les voisins, si vous ressentez l'appel du sucre, laissez tomber les boissons gazeuses internationales et puis réinventer la pâtisserie Made in Africa. C'est si simple, il faut un petit peu de temps, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour aussi pour transmettre, partager. Appelez-nous dès maintenant pour poster vos messages sur WhatsApp et puis surtout, on a envie de discuter en direct avec vous. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
On est en forme.
C'est l'attitude qui gagne.
Chef Anto, alors vous à l'origine, gabonaise, ça tout le monde le sait, mais vous avez quand même cette double culture culinaire, parce que vous êtes assez pâtisserie quand même. D'ailleurs, on ne va pas le dire tout de suite, mais vous nous avez apporté des, non pas des Paris-Brest, mais des Paris-Dakar, qui ont l'air très alléchants.
En fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que j'ai commencé avec la pâtisserie, parce que quand j'étais au Gabon, collège et lycée, je vendais des gâteaux dans ma classe. Et les gâteaux, c'était des muffins, des madeleines. Et tous les matins, j'avais ma grosse boîte et je revendais ces gâteaux-là. Et j'ai commencé avec ça. Et après ma formation, j'ai choisi la cuisine, où j'ai eu vraiment une formation pure de cuisine avec des notions de pâtisserie.
Mais dans mon métier... Au grand désespoir des parents, d'ailleurs.
Oui, mais ils sont très contents aujourd'hui.
C'est sûr.
Mais après, ce qui s'est passé, c'est que dans mon métier de chef à domicile, vous savez, quand vous êtes en restaurant et que vous êtes dans la partie salée, vous faites que la partie salée. Par contre, quand vous êtes chef à domicile, vous devez penser à la partie sucrée aussi. Et à un moment, je me suis sentie limitée en me disant, moi, je prône l'Afrique de l'apéritif jusqu'au café. Comment je peux proposer l'Afrique aussi en dessert? Et c'est comme ça que je suis partie. En fait, j'ai commencé à regarder les classiques français. Et je me suis dit, et si je prenais ces classiques-là et les produits qui ressemblent à certains produits que nous avons, j'avais juste à les substituer. C'est comme ça qu'est né le crumble de manioc.
Plus compliqué qu'une simple substitution.
Oui, après il y a de la recherche, il y a des tests de parce que voilà, nous en Afrique subsaharienne, nous avons énormément de farine sans gluten, donc il fallait voir.
C'est quand même un coup de chance, hein, ça.
Exactement. Oui, mais il fallait le blé, ce qui est bien avec le gluten, mine de rien, c'est son élasticité, c'est cette particularité. C'est pour faire par exemple des pâtes feuilletées, les pâtes gonflent, lèvent, et vous n'avez pas ça avec des farines sans gluten. Donc il fallait voir quand est-ce que ça marche, quand est-ce que
c'est ça
marche pas.
On ne peut pas faire une pâte feuilletée avec une farine de manioc par exemple.
Non, impossible. Pour l'instant ça ne marche pas. Alors je suis en train de chercher, de voir est-ce qu'il y a une plante ou autre chose, un produit naturel qui pourrait donner de l'élasticité.
Il faut être chimiste en fait. Aussi.
Ah oui, c'est, de toute façon la cuisine et la pâtisserie c'est de la chimie.
Mais comment est né le livre Goût d'Afrique, recettes et rencontres.
Alors, le livre est né déjà, moi, d'une rencontre. Parce que ça faisait longtemps avec Afro Cooking où on pensait à faire un livre de cuisine. Mais je ne voulais pas faire un livre comme les autres. Et surtout, je voulais un livre qui se vende. Parce que le problème souvent de nos livres, c'est qu'ils ne se vendent pas ou ils ne sont pas assez représentés.
Et vous vouliez surtout un livre haut de gamme, un beau livre comme,
exactement,
comme
un
les
beau
grands
livre,
livres de recettes.
Exactement. Et je salue en tout cas tous ceux qui font ça par auto-édition. Parce que personnellement, je n'avais pas le temps de le faire par auto-édition. Et ni la patience, que j'ai déjà un travail qui me prend du temps. Et puis un jour, j'ai eu cet appel de cette photographe Aline Princey. Qui m'a d'abord envoyé un mail, qui m'a dit, voilà, je suis photographe culinaire, j'ai un mari béninois et j'ai vécu au Bénin et je suis vraiment dégoûtée de voir qu'il y a énormément de choses sur toutes les cuisines, mais pas sur les cuisines d'Afrique. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un livre? Et je prendrai les photos.
Ouais. Et ça, c'était important d'avoir une photographe qui comprenne les cuisines africaines?
Oui, l'esprit. C'était important, mais ce qui a été encore plus intéressant, c'est qu'elle avait une amie styliste, parce qu'on a eu la photographe culinaire, mais la styliste culinaire qui ne connaissait rien des cuisines d'Afrique. Et ce qui a été intéressant, c'est comme elle ne connaissait rien, elle n'a pas été enfermée, parce que vous savez, le problème souvent dans nos livres de cuisine, c'est qu'on dresse souvent de la même façon. Ouais. Et la styliste, comme elle ne connaissait rien, Isabelle, elle n'avait jamais travaillé le manioc, jamais. Du coup, elle a testé toutes les recettes. Ça nous a permis de vérifier aussi les recettes.
Mais c'est une cuisine qui est difficile à photographier, je vais vous dire quand même, Anto, parce que c'est une cuisine traditionnelle, de village, donc c'est souvent un peu ce qu'on appelle un peu des plats en sauce, du ragoût. C'est pas facile à photographier, ça.
Non, ce n'est pas facile. Après, moi, le fait d'avoir l'expérience afro-cooking m'a permis aussi en amont de réfléchir à la présentation. Ce qui fait que je donnais toujours à Isabelle, en tout cas dans les annotations, voilà comment moi je vois comment on pourrait le présenter.
Il faut rester fidèle au plat lui-même, mais il ne faut pas sur la photo que ça fasse ragognasse, comme on dit chez nous.
Exactement. Non, mais c'était exact. Il fallait que ça donne envie. Sachant que la maison d'édition qu'on a rencontrée nous a dit, nous, notre public, c'est des gens qui ne connaissent pas ou des gens qui connaissent, mais qui veulent redécouvrir de façon différente. Et donc, il fallait que sur la présentation, que tout de suite, ça accroche. Parce que si visuellement, ça ne donne pas envie, on n'a pas forcément envie de le cuisiner.
Les cuisines africaines sont quand même intimement liées à la géographie du continent. Il y a la cuisine des forêts, la cuisine des bords de mer, la cuisine du Sahel.
Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant que j'ai découvert en faisant des recherches. C'est d'abord de voir que l'Afrique a été partagée en 1885 lors de la conférence de Berlin. Mais avant ce partage, il y avait des royaumes. Quand on parle du royaume Mali, il n'y avait pas que le Mali actuel. On avait la Gambie, on avait le Sénégal, une partie du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, Conakry et Bissau. Et on se rend compte aujourd'hui que souvent les gens disent « Oui, mais le Mafé, c'est sénégalais. » Mais en fait, avant qu'il y ait le Sénégal tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y avait cet empire où ils partageaient les mêmes recettes. Après, en fonction de la zone géographique, on adaptait en fonction de ce qu'on avait. C'est ce que j'ai retrouvé, en tout cas quand on parle du royaume Congo, où il y avait le Gabon, l'Angola, les deux Congos actuels, le Burundi, le Rwanda. On a énormément de plats comme les feuilles de manioc, qu'on retrouve partout.
Oui. Comme avec des noms différents, d'ailleurs.
Exactement, avec des noms différents, avec des adaptations en fonction de l'environnement. Et puis, on se rend compte aussi que quand il y avait des catastrophes naturelles ou des conflits, même entre tribus, les gens se déplaçaient et ils partaient avec leurs recettes. Donc, les feuilles de manioc que nous, on mange au Gabon, ben, on les retrouve aussi à Madagascar, on les retrouve au Mozambique, mais chacun a donné son nom et a adapté en fonction de l'environnement. Et puis, il faut savoir aussi quand même, à l'époque, les gens avaient des recettes. Ouais. Donc, la cuisinière pouvait un jour tester un produit et se rendre compte que, tiens, ça, ben, ça fonctionne. Et puis aujourd'hui, sa recette reste comme ça, mais...
Il y a des personnalisations qui se sont faites, en fait, par région, comme ici, alors, par exemple, en France.
Vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est une cuisine qui s'est peu métissée encore. Hein, si, par exemple, on regarde que les pâtes italiennes, c'est en fait des pâtes qui sont arrivées de Chine. Mais est-ce que vous diriez que les cuisines africaines ont été gâtées par l'arrivée du riz ?
Mais nous, on avait le riz avant le riz de Chine, hein. C'est ça que les gens ne savent pas. Le problème du riz aujourd'hui, c'est que le riz qui vient d'Asie prend le pas sur nos riz locaux.
Thaïlande, en l'occurrence, aujourd'hui, surtout.
Ils prennent le pas économiquement parce qu'ils coûtent moins cher. Mais au Gabon, je sais que dans la région de Tchibanga, dans la province à Tchibanga, on a du riz. Je suis allée en Casamance, j'ai planté le riz.
Il n'était pas omniprésent, néanmoins.
Non, exactement. Il a substitué plein d'aliments parce qu'aujourd'hui, comme le Sénégal, si on regarde le Sénégal, par exemple, aujourd'hui... À 90, si ce n'est 99%, le plat du midi, c'est un plat avec du riz. Si on remonte quelques années, enfin, il y a quelques années, c'était pas le cas. Donc aujourd'hui, on a substitué, en tout cas plus en Afrique de l'Ouest.
Le mil a carrément souffert de l'arrivée du riz, hein, parce que c'était le mil qui était beaucoup plus consommé au Sénégal, en tout cas avant que le riz ne soit amené par les colons. Et oui, aujourd'hui, malheureusement, on mange plus de riz alors qu'on cultive plus de mil. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très logique dans tout ça.
Détruisant des racines. Oui.
Voilà. Alors on va revenir au dessert, et d'ailleurs, c'est pas indépendant du riz d'ailleurs, parce qu'il y a du riz au lait. Mais quelle est la place réelle des desserts dans les cuisines africaines aujourd'hui, vous diriez ?
Je dirais qu'il n'y a pas véritablement de culture de dessert, enfin au Sénégal et dans beaucoup de pays d'Afrique, notamment pour des raisons économiques. Mais les mets sucrés existent, sont consommés souvent au dîner, hein, le dimanche soir. On mange souvent du tchakri ou du lard, ou au petit déjeuner quelquefois. Mais il n'y a pas encore véritablement cette culture de se dire après un bon repas, on va finir avec un bon dessert. Voilà, comme ça existe en France ou dans d'autres pays. Dans le monde.
On mise surtout sur le repas et sur le petit verre de thé.
Exactement.
Qui arrive à la fin, voilà.
Pour faire descendre.
La tradition. D'ailleurs, où il y a un peu de sucre dedans, donc c'est quand
même
l'idée de terminer
sucré,
sur une
en fait,
petite note sucrée.
Exactement. Ouais.
Anto, d'ailleurs, on parlait du tiacri, vous donnez la recette du tiacri crémeux, coulis de fraises.
Parce que je l'ai retravaillé, ce tiacri. En fait, je suis partie sur une recette de...
Alors, on va redire un peu le principe du tiacri, peut-être, quand même, pour ceux qui...
Le tiacri, que d'autres appellent aussi le dégué. En fait, vous avez un mélange... alors, elles me diront, puisqu'elles sont du Sénégal, un mélange de lait caillé et de c'est un peu de... Alors, suivant les recettes, il y en a qui mettent du fromage blanc, d'autres mettent du yaourt, qui est sucré avec du mil. Alors le mil d'une certaine taille.
Farine de mil
qui est faite en boule en fait.
De gros grains de préférence.
Exactement.
En fait, il y a toute une...
Un peu comme une semoule, finalement.
Ouais, mais comme une grosse semoule. Et alors, il y a des machines qui le font maintenant. Mais moi, quand j'étais petite, je voyais ma grand-mère et ses amis qui le faisaient avec une calebasse. Oui. C'était très hypnotisant et c'est assez technique, en fait, pour avoir... Ça a l'air simple, mais c'est assez technique d'avoir ces...
Pour boules de même taille, en plus.
C'est des boules c'est plus gros qu'une semoule.
Il va laisser sécher avant...
Et qui vont être ensuite associées avec un mélange crémeux, donc.
Exactement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est... une recette vraiment complètement différente. Je suis partie sur la recette d'un cheesecake qui n'est pas cuit. En fait, c'est des jaunes d'œufs qui sont montés avec du sucre et on rajoute au fur et à mesure la crème. Donc, on a vraiment ce nuage ça fait vraiment
très doux dans la bouche.
Exactement. Et de mettre justement le tiacri dedans, de le laisser vraiment prendre
au froid.
Donc,
c'est boulettes de mil. Hein.
Exactement. Et le faire prendre au froid et de le servir avec un coulis de fruits. Je trouvais ça très intéressant de changer la texture parce que souvent, on est tellement dans la tradition qu'on qu'on se dit, on oublie de se dire, et si on pouvait faire avancer cette recette?
Mais on retrouve des variantes aujourd'hui du tiacré au Sénégal avec des morceaux de fruits, avec le lait aromatisé avec du coco. Enfin voilà, c'est vrai que ça. La recette a un petit peu évolué,
oui. Il y a ce côté où on sous-estime, je trouve, tout le potentiel de nos recettes traditionnelles.
Exactement.
Qu'on pourrait complètement faire évoluer, comme elle l'a fait dans le livre, entre autres. Et oui, c'est vrai qu'il faudrait qu'on considère aussi les recettes qui existent depuis longtemps et voir comment on peut les moderniser ou les faire évoluer.
Je me posais, moi, la question de ces desserts, qui en fait ne sont pas des desserts, qui sont plutôt d'ailleurs des plats qu'on mangeait plutôt au petit déjeuner pour commencer la journée ou pas. Dites-moi si je me trompe, non? Le tiacré, ça se mangeait à quel moment?
Petit déjeuner, dîner, dessert, quelque
chose. Mais repas,
oui, c'est un repas.
Oui, c'est un repas. Parce que nous, au Gabon, alors on n'avait pas le tiacré, mais c'était le riz au lait.
Ouais.
C'était notre repas d'enfant.
Ouais. Ouais.
Pendant les vacances, moi, je me souviens du riz au lait de maman avec le lait concentré et tout.
Un peu un sombi, non? C'est ça? Un peu comme
c'est
un sombi. On donnera la recette tout à l'heure du sombi avec vos différentes versions.
Mais ça impliquait forcément les éleveurs qui apportaient des laitages, parce que pour faire des desserts, souvent il faut du gras quand même, non? Ou pas?
On les fait, on peut les faire nous-mêmes. Ma grand-mère et ma tante, elles font leur lait-caillis elles-mêmes. Donc
mais historiquement, il fallait forcément qu'il y ait des peuls dans les parages qui apportent du lait ou pas forcément?
Là où il y avait des peuls, sûrement. Mais nous, en Afrique centrale, y a les gens avaient leur chèvre, leur vache, pouvaient traire eux-mêmes leur bête pour pouvoir avoir du lait. Mais quoique, même quand on regarde historiquement, en tout cas nous en Afrique centrale et même dans une majeure partie de l'Afrique, hormis les Peuls et les Maasai qui sont vraiment des tribus d'éleveurs, on ne consomme pas le lait tant que ça.
C'est vrai.
Ce n'est pas quelque chose de culturellement. Le lait tel qu'on le consomme aujourd'hui est beaucoup venu avec le lait industriel.
Ouais. Et c'est bien pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de desserts. Parce que sinon,
aussi.
Message d'un auditeur innocent qui est à Lomé. Alors, il nous fait sa petite Madeleine de Proust. Avec papa, en dessert, selon les saisons, on mangeait de la pastèque, des oranges, des concombres sucrés
Des fruits.
Et des mangues. Voilà.
Des fruits.
Et j'en ai la nostalgie, car aujourd'hui, nous dit Innocent, pour avoir une mangue, il faut 500 francs CFA, c'est-à-dire pratiquement 1 euro. C'est devenu hors de prix. Les fruits, y compris sur le continent africain, ou en tout cas dans les villes, vous constatez ça aussi, Anto?
Ça dépend, je dirais, parce que c'est vrai on importe au Sénégal, malheureusement, des fruits, alors qu'on a beaucoup de choses déjà. Donc oui, c'est sûr que quand on va importer de l'ananas de Côte d'Ivoire, oui, c'est sûr que ça va être un peu cher. Mais c'est vrai que les mangues, on est quand même un gros pays producteur de mangues, donc c'est peut-être plus cher qu'avant, mais... pas forcément excessif.
Encore faut-il que ce soit la saison. Allez, vous nous appelez, on parle de tout ce qui est douceur en cette fin d'année. 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous pour partager vos idées, vos créations de desserts made in Africa.
I shook.
Algan, Kakil, chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI et on se met l'eau à la bouche en ces derniers jours de l'année 2019 avec des recettes de desserts made in Africa, avec des desserts traditionnels, des desserts revisités aussi, parce que c'est vrai que les desserts sont peu présents. On le disait avec vous, Anto Kokaine, chef Anto, vous publiez un très beau livre pour la fin de l'année, Goût d'Afrique, recettes et rencontres. Il y a du salé, mais il y a aussi du sucré. Et on est aussi avec Nafindia et Fatima Tawone. Toutes les deux, d'ailleurs, c'est intéressant parce que vos parcours respectifs, aujourd'hui, vous êtes lancés vraiment dans des desserts revisités à partir de produits africains. Mais vous avez eu une vie, toutes les deux, avant la cuisine et les desserts et vos activités respectives, Nafindia.
Oui, exactement. Moi, j'étais jusqu'à dernièrement consultante marketing en gestion de projet.
Oui, complètement autre chose.
Voilà. Et je suis en totale reconversion professionnelle. Après une expérience quand même de presque 3 ans à travers l'Afro Cake Design par le Corridoré. Et c'est vrai que je suis arrivée à un moment. En plus, bon, l'émulation aussi était là et la demande était là.
Il y a cette passion généralisée pour la cuisine. Pas spécifique. Spécifique à l'Afrique.
Exactement. Non, là, on le voit de toute façon à la télé, sur les émissions culinaires, sur le do it yourself. On a envie de faire soi-même, même en Afrique. Moi, j'ai remarqué parce que j'ai eu la chance d'y travailler pendant 5 ans. Et là où avant, on n'avait pas trop, en tout cas sur les femmes qui travaillent, aujourd'hui, la nouvelle génération, on a souvent des aides ménagères. Mais aujourd'hui, on le voit même notamment à travers des groupes Facebook, de femmes qui ont envie de cuisiner, de créer des nouvelles recettes, voilà.
Et avec ça, des blogs.
Exactement.
Alors, vous avez explosé grâce à la Foire de Paris, entre autres.
Oui. C'est vrai que ça m'a permis de me conforter sur le retour du client, alors gustatif et aussi visuel de l'Afro Cake Design que je propose. Et j'ai eu la chance d'avoir le prix coup de cœur du jury de la Foire de Paris en 2018. Et c'est vrai que ça a été le déclic pour me dire, bon, il y a quelque chose à creuser. Et
c'était quoi le plat qui vous a couronné, le cake qui vous a couronné?
Alors, sur les différents fourrages que je propose, il y a la crème de bissap, donc d'hibiscus, que je mets à l'intérieur des gâteaux. Et c'est vraiment... C'est
on
l'originalité.
On va donner la recette tout à l'heure, hein, si vous êtes là jusqu'à la fin de l'émission.
On n'a pas l'habitude. Alors, c'est une boisson qu'on consomme chaude ou froide. Aujourd'hui, il y a aussi des confitures, marmelade au bissap. Mais sur des gâteaux, ça commence à arriver. Et c'est vrai que c'était vraiment le côté original. Et après, le design, ça aussi, toujours, ça laisse pas
indifférent. Voilà,
indifférent.
À qui
exactement.
Vous vous adressez?
À tout le monde, à tous les... Bon, il faut forcément avoir une passion ou un attrait sur la culture afro-caribéenne, hein, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, venir me voir pour me demander un wedding cake en wax, c'est vrai que c'est assez original.
On vous demande ça, donc un gâteau de mariage en wax?
Exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu...
Mais alors...
C'est beaucoup plus assumé, la culture africaine est assumée, donc on a envie de s'habiller, de le montrer, on le voit même... Dans les grandes enseignes européennes, ça a été repris. Donc aujourd'hui, il y a plein de thèmes. Je me marie et je fais un thème wax chic. Je fais ma baby shower sur le thème wax. Un anniversaire sur le thème wax et glamour.
Même si on n'a pas d'origine sur le continent africain.
Alors, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, il y en a moins. Mais oui, ça peut être... Quand on veut de l'originalité et quand on est fan de cette culture,
mais
ça marche aussi.
Wax et dessert afro, vous pensez que c'est une mode ou c'est une aspiration durable? Comment vous voyez ça, toutes les deux d'ailleurs,
Le wax
Tawone.
Ou le dessert?
Ouais.
Ou
Non, mais le wax, c'est un textile, hein, c'est un dessin sur des textiles d'ailleurs qui n'est pas africain.
Ça existe depuis toujours,
africain,
hein, clairement.
Qui n'est pas africain à la base.
C'est qui a été rendu célèbre par des Africains.
Oui,
on a des longs débats sur le sujet.
C'est comme quelque chose d'ancré dans notre culture, hein, oui. Clairement. Moi, quand j'étais depuis toute petite, j'ai eu des vêtements en wax, on en parlait. Je suis née et j'ai grandi au Sénégal. Donc oui, c'est pas nous qui l'avons inventé, mais c'est quelque chose qui fait clairement partie de notre culture. Après, est-ce que cette mise en lumière va durer? Je ne suis pas forcément convaincue, mais ça restera après, parce que ça existait avant que ce soit à la mode. Ça existera après, ça c'est sûr.
Moi j'y crois, j'y crois. C'est vrai que c'est arrivé il y a pas mal d'années, ouais. Ça fait presque 10 ans. Quand c'est arrivé, moi je me suis dit, oh, ça, c'est un effet de mode et ça va passer. Mais en fait, on a su le réinventer, parce que c'est arrivé au début dans le vestimentaire, mm-hmm. on est passé au niveau accessoires, décoration d'intérieur. Mm-hmm. Maintenant, on pousse sur les desserts afro. Donc, y a
c'est ça, la cuisine afro, la pâtisserie afro sera probablement plus durable que...
Ça, c'est le début.
Oui, parce qu'on part de zéro. Il
n'y
avait rien.
Il y a tout à faire.
Donc, il y a tout à inventer. Ouais.
Et Marc, ça dit, il y a quelques temps dans cette émission, il nous avait dit que l'Afrique est le dernier continent à découvrir en termes de produits, de saveurs,
d'associations. C'est pour ça que c'est à nous de faire la promotion avant qu'eux, ils n'arrivent et dire qu'ils ont inventer des choses.
Il y a toute une génération qui a déjà commencé ce travail qui n'est pas forcément assez mise en lumière, mais on voit déjà avec le livre de Chef Anto, entre autres. Mais moi, je vois, il y a toute une autre génération à nous, celle d'après. Attention. Hein.
Alors, Fatima Tawon, alors vous, quand même, vous avez une autre vie avant la cuisine.
Oui.
C'était quoi ?
Je travaillais dans une banque d'affaires en financement de matières premières. Donc, finalement, je reste un peu dans le...
Vous restez dans les matières premières.
Je reste dans les matières première, mais autrement, et oui, j'ai eu moi j'ai fait des études de finance et puis j'ai commencé cette carrière, mais la cuisine elle est présente
avec un CAP pâtisserie, quand
oui,
même.
Parce que j'y tenais en fait. Je l'ai même
quand
pas.
Quand vous avez annoncé à votre entourage que vous quittiez la finance pour faire un CAP pâtisserie, ça s'est passé, ça s'est passé comment dire
ça s'est passé alors à part ma mère et mon grand-père, c'était compliqué. Hein. La plupart, j'ai attendu d'être sûre que je partais pour dire, parce que moi je me rappelle mon oncle qui m'a dit si tu m'avais dit avant, je t'aurais pas laissé partir. Et moi, dans ma tête, oui, mais c'est pour ça que je ne t'ai pas dit, en fait. Mais oui, c'est vrai que pas tout le monde, mais oui, ça semblait complètement aberrant de faire ce choix, de quitter quelque chose de confortable, de sûr et de prestigieux, pas mes yeux, mais en tout cas au regard de la majorité, pour faire quelque chose que beaucoup sous-estimaient à l'époque, en tout cas. Donc oui, c'était...
Vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez faire?
Oui. J'avais un plan. Ça s'est pas passé comme prévu, évidemment. Mais oui, quand je suis partie, j'avais cette idée de créer une pâtisserie en ligne pour livrer des pâtisseries aux particuliers. Pas des pâtisseries que africaines, mais avec une forte présence forcément de ma culture sénégalaise, que ce soit à travers les ingrédients ou juste de la manière de travailler les desserts. On parlait tout à l'heure de riz au lait, de sombi. C'est quelque chose que je fais beaucoup.
Qui n'est pas que sénégalais.
Non, qui n'est pas que sénégalais, mais enfin moi je connais forcément surtout là où j'ai grandi et vécu, et oui c'était ça, c'était à la fois à travers les ingrédients, mais aussi à travers la manière de travailler les desserts.
Ouais. Alors ce sombi, justement, peut-être avoir un peu quelques détails là. Vous avez des visions différentes les unes et les autres du sombi, du riz au lait que l'on trouve au Sénégal, au Mali, dans la sous-région, qui est plutôt d'ailleurs...
Moi, je connais la version sénégalaise.
Alors,
c'est vrai.
C'est plutôt une bouillie de petit déjeuner à l'origine ou pas d'ailleurs?
Moi, personnellement, je me souviens qu'on en mangeait le soir. C'était les soirs des vacances, surtout quand il faisait froid. On avait notre bol
froid,
de riz au
Gabon.
Oui, au Gabon. Enfin, chez nous, 18 degrés, il fait froid.
Hein.
Oui.
Comme à Dakar. 18 degrés, il fait froid.
Donc, et voilà, et on avait notre bol qu'on mangeait religieusement et on voulait surtout pas qu'il finisse parce que tellement c'était bon. Et c'était du lait, de l'eau dans lequel on mettait du lait en poudre. On mettait son riz dedans qu'on faisait cuire et à la fin on rajoutait du lait concentré.
Mais ce riz, il faut le faire cuire très longtemps pour obtenir cette onctuosité, non? C'est ça le secret du sombi?
Oui, beaucoup d'eau et une cuisson longue.
C'est-à-dire combien de temps?
Ça dépend de la quantité de riz. Voilà. Mais oui, c'est pas, pas non plus une heure, mais oui, c'est un peu plus long que juste de cuire du riz blanc de manière normale.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on ajoute?
Après, tout dépend. Moi, ce que je fais, alors aujourd'hui, en tout cas dans la recette, je cuis mon riz une bonne vingtaine de minutes. Donc, je préférais du... Après, tout dépend des variétés de riz aussi, parce que ça va...
C'est celui que vous avez appelé riz au lait de coco?
Exactement. Ouais. Donc, c'est lait de coco, on cuit le riz dedans pendant une vingtaine de minutes. Et après, moi, pour l'onctuosité, je rajoute de la crème de coco fouettée, je rajoute des morceaux de chocolat blanc qui fondent à l'intérieur. Donc, il y a vraiment le goût crémeux et le petit goût de noix de coco. Et si on veut encore plus de gourmandise, on peut rajouter rajouter de la vanille de Madagascar, ouais. Accompagner même du moumbouraké aussi, qu'on retrouve au Sénégal, qui est cette pain de mie séchée avec du sucre et de la cacahuète. Et ça passe tout seul.
Là, c'est pour lui donner un peu plus de tenue, on va dire. Vous nous appelez les voisins, les voisines au 33 1 84 22 71 71. On parle des desserts sur le continent africain. Ça peut en surprendre certains, mais il y a bien des douceurs et pas que des boissons sucrées sur les tables. Un message de Kalilou qui est à Cotonou qui voudrait des précisions sur le dégué, bouilli de mil.
Je crois que c'est le tchakri.
C'est la même chose. Oui. Alors je me posais la question, du coup, c'est exactement la même
chose. C'est exactement la même chose.
Parce qu'il faut s'y retrouver avec les noms qui diffèrent.
Oui, c'est ce qui est étonnant, c'est qu'on a des noms différents suivant les tribus, suivant le pays, mais souvent c'est le même produit.
Voilà, le tchakri dont on a donné la recette tout à l'heure avec ce fameux coup de main pour obtenir ces boulettes roulées sous la main et la paume et voir la calebasse. Vous nous le disiez, Fatimata Wan. Fatimata Wan, vous avez, une spécificité, un plat qui vous a couronné, qui vous a lancé
Non. A priori, non, c'est vrai. Pas une spécificité en particulier, mais oui, peut-être effectivement cette originalité d'aller chercher des ingrédients qui n'étaient pas forcément connus ou qui sont pas forcément utilisés de la même manière. Ici, je pense tout de suite à la noix de muscade que ma grand-mère utilisait beaucoup, qu'en France, on utilise plutôt en salé, dans les béchamels, les gratins, alors que nous, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans le sucré, les tchakris, les beignets, etc. Et c'est vrai que les premiers desserts que j'ai fait avec de la noix de muscade, des gens étaient très surpris, ils le sont encore un peu quelquefois aujourd'hui. Donc c'était plus d'utiliser des ingrédients qui sont connus ici, enfin moi que j'ai plutôt connu au Sénégal, mais autrement que voilà.
Anto, vous avez connu aussi une place spécifique des épices dans les desserts ou pas tant que ça?
Ah si, en tout cas moi ce que je préconise en tout cas à tous ceux qui veulent redécouvrir nos produits dans les desserts, c'est d'utiliser nos épices. Ouais. Moi ce que je m'amuse à faire, c'est le pain d'épices qui est très connu ici, c'est d'utiliser des épices africaines. Et ça donne vraiment.
Alors, ça serait quoi? Donc, on remplace carrément, exit la cannelle, on met autre chose?
Déjà, on a de la cannelle. Moi, j'utilise de la cannelle, mais qui vient du Kivu, en RDC. J'utilise ce qu'on appelle le netetou au Sénégal, donc la poudre de graines de néré. J'utilise aussi du miel. Alors, j'aime beaucoup le miel de la forêt des abeilles qu'on a au Gabon, qui est très. Qui a vraiment.
Assez corsé, non?
Exactement, c'est corsé. Et ça ressemble un peu à un miel de chaque châtaignier qu'on aurait ici. J'utilise du gingembre, du poivre. J'utilise vraiment des épices qu'on a sur le continent et on a vraiment ce goût d'épices.
Et qu'on peut trouver aujourd'hui en France, c'est ce qui est bien.
Et qu'on commence à trouver, oui, ça c'est formidable. Et pas qu'en France d'ailleurs, partout il y a des diasporas africaines qui importent ces produits. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un voisin qui nous appelle de Grenoble. Bonjour Stéphane.
Bonjour, RFI.
Ouais. Et soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Qu'est-ce que vous nous apportez pour nous régaler, au moins au téléphone, en tout cas, virtuellement?
Alors, je voudrais déjà dire que, contrairement à la fuite de l'Ouest, en Afrique centrale, traditionnellement, ce sont les fruits qui ont toujours le rôle des desserts.
Ouais,
et
vous avez
jusqu'à
raison.
Aujourd'hui. Mmh. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, c'est beaucoup plus le lait, le tchakri et autres l'omil. Alors, moi, je voudrais parler d'un fruit qu'on appelle le corossol, qui vient du corossolier. Et ce fruit, c'est un fruit filandreux. Je l'ai vu dans un restaurant en Afrique. Alors, malheureusement, c'est en Afrique de l'Ouest. Et c'était importé, je crois qu'il venait de la Côte d'Ivoire. Il avait importé, le restaurateur m'avait dit, là, il importe de la Côte d'Ivoire. Ouais. Parce qu'on ne le trouve pas, c'était au Mali, on le trouve pas au Mali. C'est un fruit qui a des continuités sur le corps qui font impression d'épines. Mm-hmm. À l'intérieur, on a l'impression que c'est du coton, mais dans le goût, on a l'impression que c'est de la glace. En fait.
Ouais.
Et il avait mis au frais.
C'est le fruit aux mille surprises. Et il arrive suffisamment mûr en France, parce que ça, c'est un vrai problème aussi. Hein. Les fruits du continent sont cueillis, pas très mûrs, pour être transportés par bateau, etc.
Ouais. Voilà. Alors, le monsieur l'avait mis au frais et ça avait complètement changé de goût. Mmh. Nous, au Cameroun, on le mange sans le mettre au frais au frigo. Mmh. Donc, on le consomme généralement comme ça. Puis, il le magnifiait. Et alors, je me disais, mais c'est un fruit banal au Cameroun. Et lui, il le magnifiait. Il avait tellement magnifié que ça donnait une autre texture, en fait. Voilà.
Ah ouais. Et qui ressemblait à quoi? Alors, c'était associé à quoi? Il avait mis, ce restaurateur avait mis d'autres produits
avec? Il avait tout juste... Il avait mis au frais et puis il a juste mis quelques touches d'ananas.
D'accord.
Alors, de cœur d'ananas, tout en sachant que le cœur d'ananas, chez nous, on ne le consomme pas, on le jette. Mmh. Alors, je trouvais ça...
C'est vrai que c'est étonnant, voilà. Parce que ce cœur d'ananas, il est un peu dur. Hein,
Il a mis quelques cœurs d'ananas pour faire décoration. Bon, nous, on le jette, on ne le consomme pas. Et là, voilà.
Ouais, bah de quoi transformer finalement un produit qui peut sembler banal, un peu comme chez nous les oranges hein, d'ailleurs.
Exactement, et c'est pour ça qu'on dit qu'on est tellement dans la tradition. Oui. Les gens vont vous dire, enfin je veux dire, moi quand j'ai rencontré une famille de Peul, je leur ai demandé pourquoi vous faites votre fromage comme ça. Ils m'ont tout simplement répondu parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui. Et personne ne s'est dit, est-ce que si je faisais autrement? Et je pense qu'aujourd'hui, avec les diasporas qui rentrent sur le continent, bah, elles ont envie de retrouver les produits qu'elles connaissent, mais travailler de façon différente.
Et d'ailleurs, à propos du Corosol, il y a quelques semaines, j'ai mangé une glace au Corosol dans un restaurant africain à Paris, agrémentée de raisins qui avaient macéré. C'était super bon. Et c'est un peu, ça rejoint un peu ce qu'il disait, c'est que c'était le même fruit, mais il y avait un goût différent. En fait, j'avais le goût du fruit, mais le fait qu'ils aient fait une glace et qu'il ait agrémenté avec d'autres choses, ça changeait un peu le goût du fruit et c'était très bon.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Avant d'accueillir Aminata, je voudrais lire le message de Babacar qui est à Dakar. Il veut préciser que le dégué est un nom qui signifie pâte d'arachide, en peul et en wolof, et dans beaucoup de langues africaines. Tiakri, ce sont des granulés de farine de mil ou mil et maïs. Bah, c'est un peu ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a fait des erreurs ou pas? D'accord avec ce que nous
on dit.
Plutôt
tigé dégué.
Ouais, on dit tigé dégué. Pour dire sauce arachide. La pâte d'arachide, oui.
C'est tigé dégué.
Après, il peut y avoir deux significations.
Mais en Côte d'Ivoire, ils disent dégué pour Tiakri.
En fait, en cuisine africaine, tout le monde a tort et raison. Il suffit de traverser une frontière et on peut se remettre
comme sur ses positions. Hein, en plus, on n'a pas tous les mêmes noms. Enfin, je sais qu'en déjà entre Wolof et Poulard, qui est ma langue maternelle, voilà, on n'a pas les mêmes mots.
On ne va pas se disputer, on va cuisiner. Et on donne la parole à Aminata, qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Aminata.
Bonjour à vous, je salue tout le plateau.
Et bah, soyez la bienvenue chez 7 milliards de voisins, vous êtes en région parisienne, on vous écoute Aminata.
Oui, bonjour, moi je voulais juste réagir sur la pâtisserie de Juan Fatimata,
ouais.
Puisque j'ai eu à commander franchement des choses qui étaient très satisfaisantes et je trouve qu'elle réinvente complètement les recettes.
Super.
Et elle a su surtout en tant qu'Africaine sénégalaise se départir de la coutume à sucrer à outrance chez les Africains, je suis désolée, c'est vrai. Et ça, c'était très appréciable.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas, on l'a dit, pas vraiment de dessert et de culture du sucre, mais quand on tombe dans le sucre, beaucoup dans le sucre.
Oui, qu'on ne fait pas semblant, ça c'est sûr.
Ah, on a la main lourde sur le sucre.
Ouais. Et alors justement, alors comment vous faites, puisque Aminata nous le disait, et merci d'ailleurs de nous avoir appelé pour ça, peut-être vous avez, il y a un dessert en particulier qui a votre faveur, Aminata?
J'aime bien ses financiers, j'aime bien la présentation qu'elle fait avec le QI mélangé à des noix, ça c'est assez original. J'aime bien son cake au chocolat, qui n'est pas démesurément sucré. j'aime beaucoup de choses, je peux pas...
Merci à vous Aminata. Alors justement, comment on relâche un peu la pression sur les doses de sucre quand on se lance avec notamment d'ailleurs une clientèle de diaspora, une clientèle africaine, pour ne pas mettre autant de sucre que ce qu'on pourrait attendre?
Il faut juste mettre en avant les saveurs sous-jacentes, en fait. Il faut que les personnes ne soient plus focalisées sur le goût du sucre, mais sur le vrai goût derrière, donc que ce soit le goût des épices ou des ingrédients.
Et puis, il faut distinguer peut-être Aujourd'hui, la population de la diaspora et de la population locale, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt en Afrique hein, qu'on a beaucoup l'habitude de consommer un petit peu plus gras, plus sucré, plus salé. Bah,
du fait aussi de l'agroalimentaire, des boissons gazeuses et sucrées qui sont arrivées, etc.
Voilà.
C'est culturel aussi. Enfin, si on remonte dans le temps, c'est aussi un sujet économique. Quoi. C'est en fait, on n'a pas beaucoup d'argent, donc on mange très gras, très sucré pour compenser ça finalement aussi.
Allez, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. C'est le moment de poser toutes vos questions. Ah ben si, on va donner la parole à... Maria, on l'aura juste après la chanson et bien sûr aussi quelques recettes avant de se quitter. 33 1 84 22 71 71.
Je suis pris en toi, maman. Et maman, comme un millier d'étoiles, tu m'illumines, maman, je suis fou de toi. Ema wamo, ema zanga biewa, vabiewa, ema vabiewa, vabiewa, kita kushema, kushema, ema c'est toi ema, c'est toi ema. Mama, Emma, qui es-tu? J'ai déjà parcouru ce monde, mais jamais je n'ai trouvé des comme toi. Emma, qui es-tu? Emma, qui es-tu? Dis-moi d'où te vient cette beauté-là? Emma, zanga, biewa, vabiewa, Emma, vabiewa, vabiewa, qui t'a accouché, Emma? C'est toi et moi. Sainte manée mao, zato zan, mettons leur d'abord bébé. Je veux ton cœur, que toi seul et moi, je te veux, je te veux.
On parle cuisine sur le continent africain aujourd'hui avec nos invités Fatima Tawon, Nafin Ndiaye, Chef Anto qui publie Good Afrique, recettes et rencontres aux éditions Mango. Et on termine, bien sûr, on vous l'avait promis, quelques recettes. Anto, vous nous avez promis l'ananas rôti. Alors, vu de loin, je me dis, oh, bah, c'est pas sorcier quand même.
c'est un ananas rôti au caramel. Alors, ce qui est bien, c'est quand il a rôti très longtemps. En général, ce que j'aime faire, c'est de le faire entier. Comme ça, il rôtit pendant 7 heures.
Avec la peau, avec l'écorce ?
Non, en fait, il est totalement épluché, mais on garde vraiment le fruit entier.
On ne le coupe pas, donc.
On ne le coupe pas, mais après...
Cuisson lente, très douce ?
Cuisson lente, très douce, parce que ça permet de le confire au four ou dans une grande cocotte. Mm-hmm. Après, ça dépend si les gens ont la place ou pas, mais le principe, c'est tout simple, c'est de faire un caramel à sec et d'ajouter ses épices dedans. Donc, en général, c'est ce que je mets, moi, c'est de la cannelle ou du gingembre, du poivre... et après de mettre un peu de beurre et un jus d'ananas pour faire vraiment une sauce et puis mettre l'ananas, le fruit à l'intérieur de ce caramel et arroser constamment à basse température et ça cuit complètement. Cet ananas rend son jus, il est confit et le manger tiède avec une glace vanille.
Et ça fond. Ça fond.
Exactement.
Comme un bonbon. Nafin Ndiaye, vous qui êtes la reine des cakes version Made in Africa, le cupcake gourmand au bissap. Oui. Moi, je suis toujours un peu dubitatif sur le bissap. Je trouve que c'est très bon en boisson. Mais est-ce que ça a vraiment du goût en tant que tel, si c'est pas bourré de sucre avec une feuille de menthe, etc.
Oui, justement.
Bon, c'est l'hibiscus, hein, pour ceux qui ne savent pas.
Voilà,
hein,
c'est l'hibiscus, la fleur de l'hibiscus. Exactement, qui a un goût un petit peu acidulé. C'est apparenté aux fruits rouges pour certains. moins il y a de sucre et plus on ressent et le goût, l'amertume un petit peu du bissap ressort. Là aujourd'hui, je le propose en cupcake. Là pour la recette qui pourra être disponible du cupcake gourmand, il peut être très simple à faire. Hein. On part d'un gâteau, d'une base de cupcake à la vanille. Je préconise plus la vanille que le chocolat parce que c'est vrai que, alors, on a le côté un petit peu acidulé, mais avec le chocolat, on a tendance à le perdre, en fait, ce petit goût de bissap. Donc, avec le gâteau vanille, il ressort plus. Mmh. L'intérieur, c'est un petit fourrage confiture de bissap. Alors là aussi, on peut s'amuser à la faire, la confiture, ou alors à l'acheter. On le disait tout à l'heure, on retrouve de plus en plus facilement certains produits dans les épiceries exotiques.
Et puis, il y a une chantilly de bissap. Comment on fait ça?
Alors, la chantilly de bissap, on part tout simplement d'une chantilly classique, sauf que la crème avec un peu de lait, elle va être infusée avec des fleurs de bissap. Voilà, donc on fait bouillir un petit peu de crème et du lait dans les fleurs du bissap. Moi, je laisse même bien infuser toute une nuit pour que ça prenne encore plus en termes de couleur et de goût. Et
ça ensuite, va donner on l'a fait, une chantilly rose pâle, donc.
Voilà, exactement. Et on l'a fait monter en chantilly. Donc on a
bien faire refroidir la crème ensuite, bien
exactement,
sûr.
Exactement, oui. Voilà, après l'avoir bouillie et justement laisser refroidir ou infuser toute une nuit au frais, on la sort bien fraîche. On ajoute le reste de crème bien froide qu'on fait monter en chantilly.
Et ensuite, donc, la pâte du cupcake.
Voilà, après pour la petite déco, on a le petit cupcake qu'on fourre avec un petit peu de confiture, pardon, et puis avec un topping chantilly, on peut même après pour la petite forme rajouter une petite fleur de bissap confite par-dessus pour la petite déco.
Ouais, très joli. Maria nous appelle au 33 1 84 22 71 71 à l'état Dakar. Bonjour Maria.
Bonjour Emmanuel.
Maria, je crois que vous voulez revenir sur le tiakri justement. Hein.
Oui, il y a deux versions de tiakri. Il y a à base de les cahiers et l'autre à base de pâte d'arachide avec des pâtissages. Mm-hmm. On l'appelle le ngala. Déjà, ma fille, là, Ndiaye, connaît ce plat-là. C'est ce qu'on distribue les jours de Pâques, à la place des œufs de Pâques.
Nafindiaï. Non, on disait qu'il y avait, oui, dans le galar, il y avait du tiakri aussi, en fait. Enfin, il y avait le mil, en tout cas, le toujours les mêmes granules de mil.
Il faut distinguer, en fait, le mil, la base qu'on appelle aussi tiakri, qu'on peut utiliser pour la version lactée dont on parlait tout à l'heure, ou alors la version avec pâte d'arachide qui s'appelle un galar. Voilà. Et le tiakri dont on parle, le dessert, en général, c'est plus l'association de ce mil avec le lait caillé. C'est vrai.
Un message d'une auditrice, Rose-Hélène, qui est dans le sud-ouest du Cameroun. Elle dit « J'ai fait un gâteau lemon au coulis de papaye, mais je n'arrive pas à le faire en insérant la papaye. Un conseil de chef Anto. »
Elle n'arrive pas à le faire en insérant la papaye. Il faut savoir pourquoi elle n'arrive pas. Est-ce que c'est parce que la papaye rend de l'eau? Parce qu'il y a des fruits comme ça. Quand
vous travaillez la papaye, vous, les unes et les autres, ou pas tellement?
Parce qu'il y a des fruits comme ça. Juste rôti, c'est pas un fruit facile.
Il y a des fruits, en fait, qui rendent beaucoup d'eau. Donc, quand on les met, par exemple, quand vous voulez faire même une tarte tatin à la mangue, c'est pas évident, c'est pas comme les pommes. Donc, après, il faut savoir, est-ce que c'est la consistance de la papaye? Si c'est la consistance de la papaye, moi, je conseillerais de la faire peut-être en purée et d'enlever le maximum d'eau,
la faire dégorger.
Exactement, pour pouvoir...
Merci à Rose, en tout cas à Rose-Hélène pour sa question. Merci aussi à Maria qui nous a appelé de Dakar. Je voudrais lire la recette très rapide d'un auditeur, Djanga, qui est à Yaoundé. Malheureusement, on n'a pas pu la voir, on a des problèmes de ligne téléphonique en ce moment avec le Cameroun. Son plat préféré, son dessert préféré, c'est la confiture de banane plantain. J'ai l'impression qu'il la mange comme ça, la petite cuillère. Et donc, il la fait cuire avec du sucre, de l'eau, bâton de cannelle, un peu de vanille. Et puis, à feu doux. Et ça a l'air tout à fait délicieux. La banane doit brunir légèrement. Merci à vous toutes. On aurait pu rester encore pas mal de temps. Mais il faut conclure cette émission et déguster le Paris-Dakar que nous a apporté le chef Anto. Goût d'Afrique, recettes et rencontres. Merci à vous, Anto Coca. C'est publié chez Mango. À demain, les voisins, les voisines.